BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevrons un invité exceptionnel dans la première partie de cette émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniques, nos études diverses et variées. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho, pour avoir les références précises de tous les livres qu'on évoque dans l'émission. Tout de suite, on accueille notre auteur. Et c'est un invité exceptionnel que nous recevons aujourd'hui dans la librairie de l'écho, un économiste rare, et comme en économie, tout ce qui est rare est précieux. Bonjour Paul Seabright.
Bonjour.
Paul, vous êtes professeur d'économie à l'université Toulouse Capitale. Vous êtes membre de l'école d'économie de Toulouse. Bon, vous croulez sous les distinctions, faut être honnête. Et vous publiez un livre, événement, La divine économie, les religions et la course aux richesses, au pouvoir et aux fidèles. C'est aux éditions Marcus Allaire. Alors je dis, vous êtes un auteur rare parce que, en gros, vous écrivez un livre majeur tous les 20 ans, à peu près. Et il se trouve que le précédent, qui date de 2004, je crois, dans sa première version, s'appelait « La société des inconnus, une histoire naturelle de la collectivité humaine ». C'était déjà un livre formidable, qui racontait comment finalement l'homme, ce petit animal farouche, en arrive à faire confiance à ses pairs, etc. C'était donc sur, j'ai envie de dire, c'était les relations des hommes entre eux. Est-ce qu'il y a une continuité, un pont finalement entre ces deux livres, les relations entre les hommes et puis après les relations entre les hommes et Dieu, c'est ça?
En fait, absolument, parce que je m'intéresse à la confiance sociale. Pourquoi et comment les gens font confiance les uns aux autres? Et quand j'ai sorti le livre que vous avez eu la gentillesse de commenter, La société des inconnus, il y a 20 ans, un grand ami à moi m'a dit, écoute Paul, j'ai lu ton livre, je l'aime bien, mais il y a deux choses qui me gênent. Tu racontes l'histoire de comment ces êtres un peu abstraits, un peu austères, arrivent à se faire confiance, mais il n'y a pas de chair dans ton livre, il n'y a pas de genre. Les gens ne sont pas genrés, il n'y a pas d'homme, de femme, d'amour, de sexe. Et il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de religion.
Oui.
Et j'ai dit, tu sais, Giuseppe, tu as raison. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé sur le sexe. J'ai sorti en 2012 un livre qui, en français, s'appelle « Sexonomics ». Et ensuite, pour 10 ans, j'ai travaillé sur la religion. Les deux choses qui manquaient, effectivement, dans ce livre-là.
Et ben voilà, donc vous bouclez la boucle. Est-ce qu'on peut donner, Paul Seabright, une définition de la religion?
Oui, c'est une variété immense d'activités, mais qui se réunissent autour de la présence présumée d'esprits invisibles qui influencent notre vie et à qui on peut faire appel. Mais s'il y a cette idée qui résume et qui réunit ces activités, les activités en elles-mêmes sont extrêmement variés. Il s'agit de prières individuelles, il s'agit de mysticisme, il s'agit de religion martiale, de djihad, de croisade, il s'agit de chants, il s'agit de rituels apaisants, il s'agit de rituels violents, il s'agit de toute une gamme d'activités. Et c'est la variété, ça fait partie de la richesse des religions. Mais ce qui les réunit, c'est que la religion crée des communautés qui se réunissent autour de ces rituels et qui ensuite profitent pour faire d'autres choses ensemble.
Alors, clairement, votre objectif dans ce livre, c'est d'essayer finalement d'apporter la contribution de l'économie à la compréhension de phénomènes pas toujours très bien expliqués aujourd'hui. Et par exemple, à la question « qu'est-ce qui rend les discours religieux séduisants, efficaces ?», vous répondez que c'est en grande partie l'économie qui nous permet d'expliquer pourquoi le discours religieux impacte autant les gens.
Tout à fait. Parce que ce que font les religions très très bien, c'est de créer des communautés. Et finalement, les communautés se réunissent pas juste autour d'une abstraction comme une théologie, mais autour d'une communauté réelle qui se réunit dans des lieux, dans des endroits, et c'est coûteux. Il faut louer ou entretenir une église. Il faut subir tous les coûts quotidiens de réunir cette communauté. Et les gens qui pensent que la religion se définit uniquement par sa théologie oublient qu'il y a aussi toutes ces activités, et ce sont des activités qui génèrent des ressources et qui consomment des ressources. Et c'est cet aspect de consommation et de génération de ressources qui définit la religion pour moi.
Vous dites que les religions sont des entreprises d'un genre particulier. En fait, ce sont des plateformes. Comment est-ce qu'elles fonctionnent ?
Une plateforme, c'est un organisme qui met ensemble les gens qui n'auraient pas pu interagir de la même façon sans. Nous sommes tous, nous connaissons très bien les plateformes séculaires, c'est-à-dire nous connaissons Facebook et Google et compagnie. Ce sont des organismes qui permettent aux gens qui soit ne seraient pas entretenus, qui n'auraient pas communiqué sans la plateforme, ou s'ils auraient fait, l'auraient fait de manière beaucoup moins efficace. Et c'est la même chose pour la religion. On pense très souvent que la religion, les gens membres d'un mouvement religieux se ressemblent tous. Ce n'est pas le cas. Il y a une diversité énorme. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des jeunes, il y a des plus âgés, il y a des gens en santé, il y a des gens malades. Il y a des hommes, il y a des femmes, et ils se réunissent dans ces communautés pour pouvoir interagir d'une manière différente. Et bien sûr, cette manière d'interagir contient du rituel et de la théologie, mais à différents égards dans différents mouvements. Mais c'est le fait de se réunir qui constitue l'essence de ce mouvement religieux.
Alors, en bon économiste, je vous propose d'explorer un peu les deux facettes de la pièce, c'est-à-dire l'offre d'un côté, la demande de l'autre. À quels besoins individuels les religions répondent-elles ? En gros, quelles demandes est-ce que les religions sont en charge de satisfaire ?
Une gamme de demandes immense. Je commence mon livre avec l'histoire d'une jeune femme que j'appelle Grace et qui est très pauvre. Je pensais qu'elle avait une certaine éducation et que peut-être elle travaillait dans une petite entreprise ou à un organisme de l'État. Pas du tout. Elle vend tous les jours de l'eau glacée dans des petits sachets qu'elle porte dans un panier sur la tête à des gens qui viennent dans des autoroutes qui arrivent jusqu'à Accra. Et elle se fait engueuler 12 heures par jour. Elle inspire toute la fumée l'échappement des voitures. Et elle rentre chez elle le soir dans un bidonville où qu'elle a construit une petite maison avec sa tante. Donc elle a une vie très difficile. Mais le dimanche, elle va à l'église. Elle porte une robe. Elle chante dans la chorale. Elle est institutrice dans l'école pour enfants. Elle montre aux gens où elles peuvent s'asseoir. Et pour une fois dans la vie, elle est traitée avec respect. Et elle donne une partie très importante de son très très faible revenu à l'église, dont, j'en parle, le patron est un homme richissime. Ouais. Il a une ceinture avec une boucle qui a un dollar dessus. Conduit à une immense Mercedes.
Donc ça ne gêne pas quelqu'un de très pauvre de donner de l'argent à quelqu'un de très riche.
Bien au contraire. Je pense qu'il y a deux choses. Donc je me pose le défi au début du livre de comprendre pourquoi elle le fait. Et la seule réponse que je vous interdis de me dire, c'est qu'elle est stupide ou qu'elle ouais, est.
D'accord.
Elle sait exactement ce qu'elle fait. Ouais. Elle comprend mieux son argent que moi le mien. Et donc le livre est en quelque sorte la recherche de l'explication pourquoi cette personne très pauvre, mais néanmoins intelligente, peut donner de l'argent à un homme qui, franchement, n'en a absolument pas besoin. Et c'est parce que cet homme a compris qu'il peut créer une communauté à laquelle elle peut appartenir et qui va la traiter avec du respect.
Donc, la religion, ça marche, mais pas par rapport à l'espoir d'une vie d'après, ou etc. C'est en gros, la religion améliore sa vie de maintenant.
Absolument. Je n'exclus pas que pour certains, oui, L'au-delà puisse être un facteur important. Mais il y a beaucoup de gens pour qui l'amélioration de leur vie quotidienne maintenant est un facteur déterminant. Et je pense que c'est le cas pour cette jeune personne.
Du côté de l'offre, est-ce qu'on peut parler de concurrence entre religions et du coup de stratégie finalement des religions pour gagner des parts de marché par rapport aux autres religions. Moi, j'avais l'intuition, je me disais, bah, la religion, c'est culturel. C'est-à-dire, je suis catholique, je suis protestant, je suis juif. Pourquoi je changerais de religion, quoi ? C'est pas un supermarché, vous voyez ?
Déjà, il y a une proportion importante de gens qui n'ont plus la religion de leurs parents. Dans le monde, il s'agit d'à peu près 15%, dont à peu près plus de 20%, presque 25% chez les gens nés bouddhistes et des gens nés chrétiens, on est dans les presque 20%. Donc déjà, il y a des gens qui quittent. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est au sein d'un mouvement religieux, il y a des variantes. Il y a des variantes plus soft, il y a des variantes plus sérieuses, ou plus, non, je dirais pas sérieuses parce que je porte pas de jugement, mais plus contraignantes. Donc, par exemple, un ami, David Parkin, anthropologue, m'a raconté que sur la route qui conduit à Dar es Salaam en Tanzanie, vous avez beaucoup de gens. Chaque jour, il y a des milliers de gens qui viennent de la campagne ou ils quittent leur village où ils ont été plutôt dans l'animisme, les festivals des dieux locaux. Ils arrivent et d'un côté de la rue, vous voyez un petit stand géré par une église pentecôtiste. Et de l'autre côté, il y a un petit stand géré par une mosquée. Il y a plusieurs mosquées, il y a plusieurs églises comme pentecôtistes. Et on choisit un petit peu selon le parfum. Parce que, par exemple, il y a certaines mosquées qui sont salafistes, qui sont très très graves, qui disent vous venez, non seulement vous faites la prière cinq fois par jour, vous venez chaque semaine à la mosquée, sinon vous commettez un péché très sérieux et jamais vous ne pensez à aller consulter par exemple un médecin traditionnel parce que c'est contre l'islam. Alors qu'il y a d'autres imams qui sont un peu plus soft, qui disent, vous savez que le Coran vous demande d'honorer vos parents, et quand vous rentrez chez vos parents, bien sûr, vos parents, ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes pratiques que nous, mais pour honorer vos parents, comme le dit le Coran, vous devez vous adapter. Donc, vous voyez, même au sein de l'islam, il y a des courants différents, et là, il y a de la concurrence au sein du mouvement, mais entre différents courants.
J'ai bien compris, l'aspiration à la religion relève de motivations extrêmement différentes. Moi, j'ai quand même ce sentiment que finalement, la religion répond quand même universellement à un besoin que ressentent tous les hommes. Et ma question, c'est comment, face à ce besoin de religion que j'oserais qualifier d'universel, pourquoi les mouvements religieux prennent-ils des formes aussi diverses et variées ?
Ben, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf un besoin. Ouais. Il y a des besoins multiples.
Ouais.
Maintenant, et surtout, je pense, sous l'influence du protestantisme allemand du XXe siècle, notamment, il y avait eu un théologien qui, Rudolf Otto, qui a écrit un livre sur le Das Heilige, le sens du sacré, qui a prôné l'idée qu'il y avait une espèce de sentiment très intériorisé religieux qui était la définition de la religion. Tout le reste était secondaire. C'est, à mon avis, historiquement très peu représentatif. Au Moyen Âge, vous pouviez être considéré comme quelqu'un de très religieux uniquement pour avoir fait la croisade et pour avoir tué le maximum de musulmans dans la Terre Sainte. Tout comme dans l'islam d'aujourd'hui, vous pouvez être un soufi, un mystique, quelqu'un pour qui c'est la prière et le rituel très intériorisé, privé, qui est l'essence de l'islam. Vous pouvez être un djihadiste pour qui la guerre sainte est l'essence de l'islam. À mon avis, il n'y a pas d'essence de ces religions. Il y a toute une gamme de besoins humains auxquels les différents mouvements et leurs différentes conceptions de la communauté répondent.
Alors, pour filer l'analogie avec l'entreprise, est-ce que ce que vous appelez les religions transcendantales, c'est-à-dire les religions un peu mondialisées, ont pris le pas sur les religions locales. En gros, est-ce que les multinationales de la religion ont pris le pas, finalement, sur les petites religions locales ?
Tout à fait. Et c'est pour une raison qui est exactement la même qui explique pourquoi Walmart a pris le pas sur tous les petits épiciers des villages aux États-Unis. Et on peut citer aussi des grands supermarchés européens. C'est parce que quand il y a le mouvement d'urbanisation du XXe siècle, les gens quittent leur village, où en gros ils connaissent tout le monde, où la religion joue un rôle important, mais c'est une part qui est constituée par un rituel, par le rituel dans les petits lieux sacrés de la montagne, de la rivière, de la forêt, où il y a des festivals locaux, et ils arrivent en ville. Et en ville, ils connaissent personne, peut-être quelques parents, ouais. Mais en ville, il leur faut un organisme fédérateur qui met ensemble tous les besoins qu'ils ont, les besoins humains, mais auxquels la ville, comme elle est constituée dans sa dimension séculaire, ne répond pas.
Comment les religions ont-elles fini par avoir autant de pouvoir ?
Parce que elles ont répondu à un besoin de marché auquel aucun organisme séculier n'a su répondre. C'est aussi simple que ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une affaire de lien quand même et peut-être d'intérêt commun entre le politique et le religieux ?
Très souvent, effectivement, et depuis la nuit des temps, la religion a été au service du pouvoir. C'est-à-dire, c'est le leader politique qui a érigé des statues, des temples pour insister que le peuple le suive. Et c'est les prêtres anciens étaient au service de l'empereur. Et ça a toujours été le cas en Chine, par exemple. Ce qui a été très différent dans les religions judéo-chrétiennes, c'est que il y a eu un centre de pouvoir qui était un petit peu écarté du pouvoir politique. Notamment, nous connaissons tous l'histoire de cette négociation constante entre les papes et les empereurs. De la même façon, dans le judaïsme, notamment à cause de la diaspora, les communautés juives étaient dans la survie et dans la création d'une communauté qui gardait les liens suffisamment forts pour que le judaïsme ne soit complètement éparpillé et dispersé dans le peuple qui entourait. L'islam était un petit peu différent aussi parce que depuis le début, l'islam a été une religion du pouvoir, mais par ce fait, il y a eu toujours des petits mouvements au sein de l'islam, comme par exemple le soufisme, où, puisque vous n'avez pas un pouvoir central, tout le monde, vous et moi, alors que si on était musulman, on pourrait se lancer dans la création, on pourrait devenir imam. Tout le monde peut devenir imam. Ça ne veut pas dire que forcément que vous aurez des gens qui vous suivent, mais il n'y a pas de pape de l'islam. Un imam, ça peut être vous ou moi ou n'importe qui.
Alors, on ne peut pas parler, Paul Seabright, du pouvoir des religions sans parler des abus de pouvoir de la religion. Et vous vous êtes intéressé notamment, finalement, à toute la problématique des prédateurs sexuels, notamment dans l'Église catholique, pour essayer de comprendre, finalement, au-delà de la folie de quelques individus, finalement, comment on a pu avoir autant d'abus sexuels, pour le dire comme ça, dans l'Église catholique, par exemple. Quels sont les mécanismes à l'œuvre derrière tout ça ?
Oui, tout à fait. D'abord, il faut préciser que je parle beaucoup des abus dans l'Église catholique, il y en a eu beaucoup, mais je dis très clairement qu'il ne s'agit pas que de l'Église catholique, il y a de l'abus sexuel dans tous les mouvements religieux. Je cite des cas dans les églises protestantes, dans l'islam, dans le bouddhisme, partout. C'est vrai que, et paradoxalement, l'Église catholique est un peu plus montré du doigt maintenant parce que, en grande partie grâce au fait que ce soit un organisme centralisé avec un pouvoir central qui a pu répondre aux critiques en lançant des enquêtes officielles. Et nous savons, grâce à ces enquêtes officielles, par exemple en France, que le nombre, l'échelle de ces abus a été énorme. Mais il est très clair qu'il ne s'agit pas que de l'Église catholique, il ne s'agit pas non plus que de la religion.
Qu'est-ce qui, dans la structuration ou de l'organisation de l'Église catholique, permettait ce genre de pratique, entre guillemets ?
Je vais être paradoxal, je vais dire que ça fonctionne si mal paradoxalement parce que ça a fonctionné si bien. C'est précisément parce que les bons leaders de l'Église ont établi un lien de confiance avec certains de leurs fidèles, ah oui, qui souvent, dans une situation soit de fragilité psychologique, soit sans aucune fragilité psychologique, dans une situation de dépendance qui peut venir de leur jeunesse, qui veut dire du fait qu'ils ont en pension et donc assujettis au pouvoir de quelqu'un d'autre. Ce sont des gens en situation de vulnérabilité qui, précisément parce que les leaders du mouvement religieux ont du charisme, ont la capacité d'inspirer la confiance, que ces gens-là font trop confiance. Vous ne pouvez pas avoir trop confiance en quelqu'un qui n'inspire pas du tout de confiance.
Paul Seabright, les religions sont-elles sur le déclin ?
Non, pas du tout. Certains le sont. Globalement, en termes de part de marché, si j'ose dire, l'Église catholique l'est depuis quelque temps, pour beaucoup de raisons, et qui ne présagent pas forcément un déclin terminal. L'Église catholique est comme un de ces monopoles que nous avons eu dans les télécoms dans les années 80, qui a perdu les parts de marché parce que c'était une vieille entreprise qui fonctionnait selon ses vieilles façons et qui a été bousculé par l'arrivée de nouveaux entrepreneurs qui ont compris le marché beaucoup mieux qu'elle. C'est la même chose pour l'Église catholique. Je ne dis pas du tout qu'elle soit incapable de rebondir, mais pour l'instant, elle est sur la défensive. De la même façon, il y a les religions protestantes, on va dire, de l'établissement, qui sont au recul depuis longtemps. Mais les églises pentecôtistes sont en plein essor. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, notamment dans les grandes villes où les gens qui arrivent ont besoin d'une communauté que aucun organisme séculier n'a su leur créer.
Quelles sont les religions les mieux armées pour affronter tous les défis des temps modernes, transition écologique, révolution technologique? Est-ce que ce qu'on pensait être finalement le siècle de la science ne va pas s'avérer paradoxalement le siècle du religieux?
Là encore, je vais vous décevoir parce que les religions sont tellement variées qu'il y a certains qui s'allient au pouvoir, qui veulent nier la science, qui veulent nier l'importance du réchauffement climatique. Il y a d'autres mouvements religieux qui sont plus dans l'écologisme et notamment qui créent une espèce de unité sacrée et spirituelle entre l'homme et la nature, qui sont parfaitement adaptés à ce défi. La religion est aussi diverse que la vie humaine. Et c'est ça son point fort. Si la religion n'occupait qu'une petite niche dans nos besoins, dans notre psychologie, dans notre vie intérieure, elle serait, à mon avis, destinée à être évincée dans un monde où le smartphone, les réseaux sociaux, etc., nous permettent de brouter auprès de toutes les offres différentes que la vie nous propose. Et c'est précisément la force de ces mouvements qu'elles s'adaptent à ce nouveau changement, à ce nouveau paysage numérique, technologique. Les religions qui réussissent savent que les gens ont des besoins que l'économie séculière s'est créée pour eux, mais que les gens ont aussi des besoins très anciens, et notamment des besoins de communauté et communauté humaine, comme vous et moi, on est là, sur le même plateau, on se parle, on aurait pu faire ça sur Zoom, mais il n'y aurait pas eu la même alchimie. Et la religion, c'est créer cette alchimie dans un groupe de personnes qui est très varié.
Paul Seabright, est-ce que certaines religions sont plus favorables à la prospérité économique que d'autres? Autrement dit, est-ce qu'il y a des religions qui sont plus business-friendly que d'autres?
Je pense que le point fort de beaucoup des églises pentecôtistes, c'est dans la création de communautés, ils ne sont pas du tout frileux de la mise en contact des gens qui ont des liens économiques à creuser. Notamment des gens qui viennent à l'église, par exemple à la messe du dimanche matin, très souvent à la sortie de la messe, ils seront mis en relation avec, je sais pas, un employeur local qui pourrait être mis en relation avec un jeune chômeur parce que, et c'est très important, c'est pas un alia qui se rencontre à la sortie de la messe, c'est que le prêtre ou un des prêtres adjoints dont les églises pentecôtistes ont un vaste réseau va avoir vu que le jeune homme est quand même prometteur, même s'il est chômeur, il va le mettre en contact avec le grand patron d'une entreprise qui pourrait l'aider.
Et dans les grandes religions, l'islam, le judaïsme, la religion catholique, le protestantisme,
est-ce qu'il y a... c'est très varié. Dans le judaïsme, à l'époque de Jésus-Christ et avant, les Juifs étaient plutôt un peuple agriculteur. Ils n'étaient pas aussi éduqués comme aujourd'hui. Mais c'est après la diaspora que les communautés juives qui étaient partout dans la diaspora, se sont dit, il faut qu'on survive. Et pour survivre, il faut créer un sens à la communauté, il faut nous doter du capital humain, et notamment d'un sens de l'importance de réussir, qui va être notre bouclier contre tout ce que le mauvais sort peut nous jeter. Et donc, toute l'idéologie, on va dire, de l'école rabbinique des premiers siècles de notre époque, a été d'expliquer aux Juifs que c'était très important de réussir parce que en réussissant, vous créez de la force pour votre communauté. Donc c'était un besoin religieux. Dans l'Église catholique, il y a eu un peu la même chose, mais pas partout. Les franciscains, par exemple, ne prenaient pas du tout la prospérité de la même façon.
Merci beaucoup, Paul Seabright.
Merci.
Pour cette plongée vertigineuse, finalement, dans cette exploration des liens entre l'économie, la religion. Votre livre s'appelle « La divine économie, les religions et la course aux richesses, au pouvoir et aux fidèles ». C'est aux très bonnes éditions Marcus Haller. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la deuxième partie de la librairie de l'écho. On la clôturera comme de coutume avec le coup de cœur de la rédaction, nos derniers choix, et puis vous aurez aussi un panaché des meilleures études de la semaine. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et critique attitré de livres dans le magazine papier Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et grand critique, lui aussi attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, le livre d'Elisabeth Benalli-Léonard, chef d'entreprise, chef au féminin, aux éditions Valeurs Ajoutées.
Tout de suite dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent qu'il faut oublier les erreurs de typo, oublier les fautes d'orthographe, il y en a partout dans le livre. De ce point de vue, l'éditeur a vraiment loupé la forme. Le fond, je trouvais ça absolument génial. Elisabeth Benalli, elle rachète une entreprise qui fait des paratonnerres. Alors on découvre, en tout cas moi je découvre dans le bouquin qu'il y a des paratonnerres tout bêtes et puis des paratonnerres qui sont un peu plus rusés. C'est une innovation française du CNRS, de nos ingénieurs, nos scientifiques des années 70 qui tirent un petit peu la foudre pour pouvoir en contrôler les conséquences. Donc elle rachète la boîte, elle va à la première réunion des gens qui s'occupent de tout ça et là elle apprend que dans 3 mois, la norme industrielle qui lui permet de produire ça s'éteint. Donc en fait, elle vient de racheter une boîte où elle ne pourra rien produire. Et donc elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Mais puis petit à petit, elle mène l'enquête et elle s'aperçoit qu'il y a eu un véritable acte de guerre économique de ses concurrents, parce que les autres faisaient des paratonnerres traditionnels, les Français avec leur innovation arrivent à gagner des parts de marché, les concurrents notamment allemands, qui ont noyauté les régulateurs de normes au niveau national, puis au niveau européen, pour changer la norme et pour liquider cette norme française qui permet de produire des biens qui sont extrêmement concurrentiels. Donc elle va, tout le récit du livre, c'est on rentre vraiment dans une guerre économique, c'est la contre-guerre, la contre-offensive d'Elisabeth Benalli qui va essayer de produire des études scientifiques, d'organiser des réseaux, sites internet, toute seule, puis avec les concurrents français pour que la France garde son avance, avec les services secrets français. Et donc elle va vraiment mener la contre-offensive de guerre économique et c'est tout le récit est dans le livre. Et au milieu de tout ça, elle a des problèmes avec la personne qui lui a vendu l'entreprise. Elle a des problèmes avec son banquier, parce qu'évidemment, ça prend du temps, elle ne peut pas rembourser tout de suite. Elle demande un rééchelonnement de ses dettes, mais il y a un des banquiers, ça ne l'arrange pas, qui veut liquider l'entreprise. Bref, elle nous raconte au jour le jour la bataille d'une chef d'entreprise prise dans la guerre économique. La guerre économique, on en parle de manière générale, abstraite. Là, on est vraiment dans le concret.
Ça se passe quand, concrètement?
Ah, ça se passe il y a 10 ans, quoi. D'accord. C'est vraiment okay. Très, très récent. Et on comprend avec ce livre que le principe de fonctionnement du capitalisme, c'est pas la concurrence, c'est le sabotage. Pour gagner dans la durée et faire des profits, il ne faut pas faire un meilleur produit que ses concurrents, il faut saboter ses concurrents. Et il faut vraiment, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai trouvé ce récit complètement passionnant.
Bon, Jean-Marc.
J'ai trouvé ce récit effectivement passionnant, mais rocambolesque. Et il y a des moments où je me demande si c'est pas totalement invraisemblable. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Christian, donc vous demandez en quelle année, on est en 2008, et donc elle achète l'entreprise, et au mois de juillet 2008, à une réunion, c'est une réunion effectivement des professionnels, on lui dit, mais vous êtes bien fait avoir, hein, parce que ce que vous avez acheté, ça ne vaut rien. Et donc, la première question, c'est effectivement, à ce moment-là, on se tourne vers la justice, il y a dole. Quand on vous vend quelque chose sur la base d'un mensonge, il y a dole, il y a des actions, je dis, pas du tout. Elle rentre effectivement dans cette espèce de guerre, et alors avec une vision un peu complotiste, parce qu'elle dit, effectivement, c'est une guerre avec les concurrents allemands qui ont un procédé traditionnel de paratonnerre, qui est la tige de métal mise sur le clocher, et puis on envoie le champ électrique dans le sol. Et le procédé est un procédé qui, normalement, modifie un peu le champ électromagnétique du nuage. Mais au lieu d'aller... Et puis... elle pourrait se retourner contre la chambre de commerce. Ça se passe dans la Creuse. Elle est allée voir la chambre de commerce de Guéret, qui lui dit, mais il n'y a aucun problème. Cette entreprise est tout à fait viable. Bon, pas du tout. Et apparaissent effectivement les services secrets, la DGSI, les contre-espions. Enfin, je veux dire, dans quel monde on est? Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que, certes, alors il dit, alors les Français, on se fait vraiment avoir par l'Europe et tout ça, sauf que l'administration l'INERIS, qui est un service du ministère de l'Environnement, qui a été saisi effectivement par les gens qui ont mis en place ce procédé, a dit, non, mais c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est pas les Allemands qui sont les plus critiques au départ sur son procédé, qui, encore une fois, n'est pas le sien. Hein. C'est les autorités françaises elles-mêmes, c'est les autorités de défense de l'environnement qui disent, il y a un danger, il y a un risque. De même, effectivement, il dit c'est les banquiers qui veulent la laisser tomber. Mais quand elle dit, en fait, celui qui est le plus acharné à me faire tomber, c'est la BPI. Alors, pas la BPI en tant que telle, c'est parce qu'un certain nombre de gens disent, veulent solder l'opération, notamment son banquier, qui est le banquier local de Guéret, qui dit, au moins, la BPI finira par payer. Alors, en l'occurrence, la BPI, d'ailleurs, est l'héritière du fonds de précédent qui subventionnait l'économie. Et donc, j'ai trouvé ce récit... Il y a une dimension un peu complotiste, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, une fois qu'elle s'est aperçue qu'elle avait été victime d'une escroquerie, parce que le mec qui lui a vendu savait pertinemment que 3 mois après, le produit n'était absolument invendable. Pourquoi elle s'est engagée dans une opération qui se termine avec des rencontres avec la DGSI? Donc, il y a quelque chose d'assez mystérieux dans cette aventure, qui est effectivement passionnante, mais... sur lequel on se dit, il y a quand même, comme aurait dit Martine Aubry.
Mais la réalité dépasse parfois la fiction.
Comme dit Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. Donc c'est assez flou. Donc je me pose quand même des questions sur ce qui s'est vraiment passé.
Bon, bah écoutez, à voir. Mais enfin, en tout cas, le récit a l'air complètement fou.
Ah oui, oui. Ah oui, et pour revenir sur l'éditeur, moi je suis allé sur le site de l'éditeur, effectivement ils se sont aperçus, et donc il y a marqué sur le site de l'éditeur qu'ils sont en train de préparer un nouveau tirage et qu'ils ont revu la pagination, les fautes et tout.
Faut
ça.
Faut avouer à moitié pardonné.
Oui, oui, c'est assez grave là, ça dépasse les proportions. Alors, normales.
Bon, Jean-Marc Daniel, finalement un récit plus tranquille, vous nous racontez...
Oui, oui, absolument.
Vous nous racontez un dimanche en France.
Exactement, voilà. Alors un dimanche en France, effectivement.
Sous la houlette de Jean-Daniel Lévy, c'est aux éditions de l'Aube.
Alors Jean-Daniel Lévy est un des auteurs, c'est lui qui a un peu coordonné l'opération, d'un petit groupe qui s'appelle Les Choses de la Vie, et qui a déjà publié un livre sur le rapport des Français à 20h, que font les Français à 20h. Donc là, c'est que font les Français le dimanche. Donc il y a l'article de Jean-Daniel Lévy qui nous fait un état des lieux de qu'est-ce qu'on fait le dimanche, c'est-à-dire rien. grosso modo, la grasse matinée, un peu de sport, on regarde la télé, bon, très bien. Et puis ensuite, heure par heure, on suit au travers d'interventions de ouais. différents auteurs, soit sous forme d'un article, soit sous forme d'un entretien, soit sous forme d'un récit un peu humoristique, ce que l'on fait le dimanche. Alors, il y a trois moments forts, en fait, trois textes qui m'ont intéressé, qui m'ont parlé les plus. Il y a quand même celui sur la messe, quand même le dimanche. Ah on devrait aller à la messe. On y va assez peu d'ailleurs. Ce qu'il raconte, c'est qu'effectivement, on y va de moins en moins. Et vous savez, la formule des républicains au 19e siècle, c'est il faut maintenir le travail du dimanche parce que si vous videz les ateliers, vous remplirez les églises. Et donc, ce que constatent les auteurs, c'est qu'on a vidé les ateliers et on a vidé les églises aussi. Et ensuite, il y a un chapitre sur le poulet. C'est-à-dire, normalement, autrefois, le dimanche, le menu, c'était effectivement repas de famille avec du poulet, ouais. le poulet rôti, et donc, et ils expliquent avec le fait que le père mangeait les cuisses, la mère les ailes, les enfants les blancs. Et donc, il y a tout un tas de notes comme ça, assez humoristiques.
Passionnant.
Oui. Et puis, il y a quand même une interview de Laurence Descartes, qui est la directrice du musée du Louvre, qui est, un peu tragiquement, entre guillemets, dans l'actualité en ce moment, qui raconte effectivement sa vision. Elle a été.
C'était pas un dimanche que tu envoyais à la ville.
Elle oublie de le dire.
Elle n'en parle pas, de ça. Mais là, ah ouais. Et donc, le rôle du musée dans la vie du dimanche.
Ah bah
et
oui.
Donc, effectivement, vu l'actualité, effectivement, ça prend un tour un peu particulier. Enfin, c'est un livre agréable à lire. Ça marquera pas l'histoire de la littérature. On ne mettra pas ça en parallèle avec J.D. Proust, mais c'est un livre agréable à lire que je recommande.
Bon, Christian.
Je trouvais déjà le livre un peu daté, parce que nous dire pourquoi je m'occupe du dimanche, bah parce qu'on peut faire du sport, on peut aller au cinéma, faire des expos, tout ça. Mais maintenant, avec la proportion de salariés qui ont des RTT, je peux faire ça aussi le lundi, ou le mercredi, ou le vendredi, sans même parler du samedi. Pourquoi le dimanche en particulier ? Donc j'ai trouvé que l'angle était déjà un petit peu 20e siècle. Après, l'intro nous dit, c'est pas un grand récit, c'est pas un grand truc théorique, c'est un patchwork. De fait, hein, c'est un bouquin en costume d'Arlequin. Ça, il y a dans toutes les couleurs, ça va dans tous les sens. Moi, j'ai pas trouvé ça. Bon, c'est vraiment très très léger. Le premier long papier qui s'appuie sur un sondage et le résultat phare, c'est qu'est-ce qu'on fait le dimanche ? On se repose. Bon, on dirait, comme dit l'INSEE dans un blog de cette semaine, les évidences, on doit les objectiver aussi, ça s'accélère l'INSEE. Mais là, vraiment, c'est toute une série d'évidences, bon, objectivées en tout cas par un sondage. Il y a un chapitre, moi, qui m'a un peu intrigué sur la marche, parce qu'on marche. Le dimanche, on peut aller marcher, mais là, c'est pas une interview sur la marche du dimanche, c'est sur la marche. C'est une reviviscence des sciences. Moi, je croyais que la marche, c'était de mettre un pied devant l'autre et recommencer. Non, c'est une reviviscence des sciences, c'est une reconfiguration du monde, et l'auteur, c'est même une prière. Donc voilà, on peut vraiment aller très très loin dans l'explication de ce qu'est la
l'auteur
marche.
L'auteur est un sociologue, je signale.
L'auteur est un sociologue. Moi, j'ai rien contre les sociologues.
Non, je signale au passage.
D'accord. Mais là, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre et de fait, j'ai bien été intéressé et amusé par l'interview au second degré de Laurence Descartes. Parce qu'elle oublie de nous dire que le dimanche, c'est aussi le lieu des cambriolages, le moment des cambriolages du jour.
Oui, ouais. Il s'en passe des choses le dimanche.
Donc vraiment, c'est un livre franchement très 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 léger.
Bon, très bien. Eh ben écoutez, voilà, à déguster.
Oui, c'est un livre léger, sans prétention, voilà. Et agréable.
Alors, un livre fou et un livre léger.
Entre le poulet et la marche.
Il y aurait beaucoup à dire sur cette théorie du poulet.
Oui. Mais je recommande la lecture de cet article.
Mais au nom de quoi, c'est ce qui me sidère quand même, pardonnez-moi, mais au nom de quoi certaines personnes savent quels sont les meilleurs morceaux du poulet ?
Ah oui. Pas dans le livre, mais
Au nom de quoi quelqu'un décrète que les meilleurs morceaux, c'est la cuisse, etc.
Bon, et moi, pour vous, c'est quoi ?
Mais moi, le sujet, c'est que c'est la magie du marché, mon cher Jean-Marc. Quand vous mettez un poulet autour de la table, il y en a pour tous les goûts et ça satisfait à peu près tout le monde. Pas la peine de se demander. Voilà, moi, je pense qu'il y a une main invisible qui, finalement, satisfait les besoins de chacun avec le morceau de ses rêves qui n'est pas le même que celui
c'est
de son
voisin. C'est comment on fait pour le réveiller.
Oui, voilà. Comme quoi, ce livre c'est a plus tout. De profondeur.
Non, mais c'est un sujet important. Comment découper le poulet du dimanche. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho. L'étude de la semaine.
C'est le travail réalisé par la direction des études économiques de BNP Paribas sur l'impact des hausses de tarifs douaniers américains. Alors, une étude au titre surprenant, Le commerce mondial n'a pas seulement survécu au Liberation Day, il en sort renforcé. Isabelle Matteo-Silago, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes la directrice des études économiques de BNP Paribas. Et alors, expliquez-nous comment vous en arrivez à cette conclusion surprenante sur l'impact des hausses de tarifs douaniers américains sur le commerce mondial.
Alors, je suis arrivée à cette conclusion en regardant les chiffres. Et c'est vrai que si la seule information dont on disposait était les chiffres d'évolution des exportations mondiales en 2025, on ne devinerait jamais qu'il y a eu une offensive tarifaire majeure de la part des États-Unis, hein, puisque le tarif extérieur moyen des États-Unis est passé de 2,5% en début d'année à peu près 13% aujourd'hui. Et effectivement, ce qui s'est produit, c'est que les exportations mondiales ont augmenté de 18% en valeur et que toutes les régions du monde ont vu leurs exportations s'accroître. Alors, avec beaucoup de reconfiguration de flux, je dirais, sous la surface, et notamment dans le cas de la plus visible, c'est une baisse très forte des exportations chinoises vers les États-Unis, presque 20%, mais qui a été compensée par une hausse des exportations vers d'autres régions. De la même manière, l'Europe a, elle, réduit ses exportations vers la Chine, sans doute pas de son plein gré, mais enfin, ça a été ça le résultat, mais a réussi à maintenir ses exportations vers les États-Unis et a surtout renforcé considérablement ses exportations intra-européennes. Et puis la région qui tire son épingle du jeu le mieux, c'est ce qu'on appelle l'Asie avancée, qui a vu ses exportations totales augmenter de la manière la plus vigoureuse, hein, de 14%. Et ça donne un début d'explication sur ce qu'il y a derrière cette bonne tenue du commerce international. Sauf. En tout cas, une des raisons, c'est le boom de l'investissement dans l'intelligence artificielle. Or, l'Asie avancée, notamment la Corée et Taïwan, sont des pays qui sont au cœur de cette chaîne d'approvisionnement et la réponse nécessaire aux investissements massifs dans la modernisation technologique. Donc, et l'IA.
Isabelle, ce que vous dites, c'est qu'il y a à la fois, en fait, une incroyable réactivité, finalement, des entreprises à cette nouvelle donne tarifaire, mais que cette réactivité, elle est très largement permise par la révolution technologique.
Je dirais qu'il y a eu les deux à la fois. Il y a toute une partie de la réactivité qui ne doit rien à l'investissement dans l'IA, mais il y a en plus à ses côtés le boom de l'IA. Mais ce qui est très important dans tout ça, c'est que rien de tout ça n'aurait été possible si on avait eu une guerre commerciale généralisée. Et finalement, il y a eu très très peu de représailles à l'offensive tarifaire américaine. Il y a eu quelques représailles bilatérales, mais qui n'ont pas duré longtemps. Et au niveau mondial, au contraire, ce à quoi on a assisté, c'est à des efforts pratiquement frénétiques de tous les pays du monde pour libéraliser leur commerce avec leurs différents partenaires commerciaux, ouvrir de nouveaux marchés, de telle sorte que l'année 2025 marque un record des mesures de libéralisation des échanges comptabilisées par les organismes qui enregistrent toutes ces mesures. Donc finalement, 2025, malgré le Liberation Day, une année de progrès de la libéralisation du commerce international.
Absolument passionnant. Merci beaucoup Isabelle Matteo-Silago pour ce travail donc que vous pouvez retrouver en accès gratuit sur le site de la Direction des études économiques de BNP Paribas, site qu'on ne saurait trop vous recommander. Merci beaucoup Isabelle, à bientôt.
Merci, à bientôt.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et on commence avec cette étude de Conto, la plateforme de paiement, qui publie une étude sur la réalité vécue par les entrepreneurs européens. Alors l'enquête met en évidence une exception française. En France, on ne devient pas patron pour travailler autrement, mais pour vivre mieux. La France se détache nettement de ses voisins avec 36% d'entrepreneurs en quête d'un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est un record pour le vieux continent. Et puis, l'étude de Conto, eh bien, elle révèle aussi un paradoxe spécifiquement français. D'un côté, la France offre l'un des environnements les plus favorables à la création d'entreprises, hein, jugé facile ou très facile par 34% des sondés. C'est le deuxième score européen. Mais de l'autre, le quotidien reste complexe. L'acquisition de clients, la trésorerie, l'administratif sont les principaux défis qui pèsent sur le moral des dirigeants. Un décalage qui s'explique finalement par une réussite en demi-teinte des politiques publiques, hein, puisque si la France a su simplifier radicalement l'acte de création d'entreprise, eh bien la gestion dans la durée reste une épreuve d'endurance, au point que finalement les entrepreneurs, 1 sur 4, estiment qu'il envisagerait de retourner vers le salariat. C'est un record en Europe. Donc d'un côté, de grandes facilités pour créer une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué pour la gérer. Et du coup, 1 entrepreneur sur 4 qui envisage de revenir au salariat. Encore une fois, c'est beaucoup plus qu'en Allemagne, en Espagne ou en Italie. C'est 2 fois plus même que dans ces pays.
L'événement de la semaine.
C'est l'étude de Ginka, un hub d'annonces immobilières augmentées, une étude qui met en lumière une véritable diagonale du vide écologique au centre de la France. Qu'il s'agisse de consommation d'énergie ou d'empreinte carbone, tous les indicateurs sont au rouge dans cette diagonale. Le Cantal fait figure de lanterne rouge pour les émissions de CO2 par habitant, tandis que la Creuse détient le record de la consommation d'énergie. Sur la deuxième marche de ce podium, on retrouve la Meuse pour l'empreinte carbone et de nouveau le Cantal pour l'énergie. La Haute-Marne aussi est assez mal classée pour ces deux catégories. Traditionnellement délaissées en raison d'un bassin d'emploi limité, ces régions montagneuses cumulent les difficultés. Elles subissent un climat hivernal rigoureux qui s'installe sur la durée, 6 à 7 mois en moyenne, bien plus longtemps que dans le sud, évidemment. Dans ces régions, l'habitat se compose majoritairement de maisons individuelles, souvent mal isolées et dotées de grandes surfaces difficiles à chauffer. Dans ce bilan énergétique carbone contrasté, Paris se situe en milieu de tableau. C'est en Corse et sur la Côte d'Azur, où évidemment les besoins en chauffage sont moins grands que les bilans énergie et carbone sont les plus verts.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Le coup de cœur de la rédaction, c'est celui de notre grand spécialiste du budget et des politiques économiques à la rédaction de BFM Business, Hugo Babet. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Alors Hugo, vous avez choisi cette semaine de nous parler alors d'un livre étonnant, passionnant, original. Vous nous emmenez en Sologne, dans les bois, sur les traces des grands patrons du CAC 40. Ça s'appelle « Les nouveaux seigneurs ». C'est le nouveau livre de Jean-Baptiste Forêt, rédacteur en chef à la Gazette des Communes. De quoi s'agit-il, Hugo ?
Fini les personnalités politiques pour cette semaine, direction la forêt de Sologne. Je cite le Saint-Tropez sous bois avec les Bouygues, Dassault, Seydoux et quand même quelques hommes politiques et quelques stars de télé au milieu. C'est dans ce paysage au milieu des arbres où nous embarque l'auteur. Et on se croirait presque à la Défense, mais à 2 heures de Paris, avec notamment une anecdote marrante.
Et entre et où les grandes tours sont remplacées
par les manoirs, les châteaux, exactement. Ouais. Une anecdote marrante entre manager d'AXA où on demande au nouveau chassez-vous avant de les emmener dans ce petit milieu au milieu des bois.
Alors, on découvre dans ce livre l'importance, finalement, pour cette population de la chasse.
Oui, on a tout le long de ce livre des récits de chasse entre des grands chefs d'entreprise. On apprend notamment qu'Olivier Dassault a signé la vente de l'un de ses jets pendant une partie de chasse dans un sous-bois en Sologne. Mais au milieu de ces grandes fortunes, on croise aussi Éric Ciotti, l'ancien patron des Républicains alliés au RN, François Baroin, l'ex-patron des maires de France, même à gauche, Claude Bartolone, l'ancien président socialiste de l'Assemblée. Finalement, on crée des liens, une familiarité, on chasse, on dîne ensemble, et après, les idées infusent dans les discours politiques. C'est ce qu'on appelait sous Napoléon la gastro-diplomatie.
Alors, tout ça a un petit côté un peu folklorique,
entre soi,
un peu entre soi, sauf que derrière finalement ce folklore presque, j'ai envie de dire, il y a quand même un côté beaucoup plus sombre, avec finalement une population locale qui voit débarquer toutes ces grandes fortunes et qui en plus déstabilise complètement l'écosystème local.
Ouais, c'est vraiment l'autre côté de la pièce, qui dit domaine privé dit mur et grillage sur 4000 kilomètres, plus que le Tour de France, aussi des quartiers privés, une explosion du prix du foncier et certains privilèges accordés par les élus locaux pour se mettre bien avec ces grandes fortunes locales, et aussi les conséquences environnementales sur la faune sauvage qui se retrouve piégée au milieu de ces parties de chasse, avec des pratiques de baltrap, de chasse à courre, qui vont bien au-delà des critères de régulation.
Alors, ça crée des problèmes, alors que la Sologne est plutôt quand même finalement un territoire politiquement friendly,
plutôt pas droit
pour tous ces riches.
Ouais, c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant dans ce livre. Très intéressant même, parce que les locaux sont pas vraiment adeptes de la lutte des classes, sont plutôt pour l'arrivée de ces grandes fortunes. Donc on a tout le long de ce livre un genre de dilemme, parce qu'on a d'un côté une population qui malgré tout crée de la richesse, va faire vivre le commerce local, attire des financements aussi du national, et de l'autre, ces grandes fortunes imposent des nouvelles règles, des méthodes parfois déloyales, très souvent, et dénaturent des paysages qui, là aussi, dont la population est très attachée à ces paysages qui sont verdoyants, et au milieu, ces grands murs, ces grands grillages imposés par les grandes fortunes qui y arrivent.
Il y avait quand même eu un certain nombre de contestations. Moi, j'étais resté dans l'idée que ces pratiques avaient pas disparu, mais disons que ces grandes fortunes avaient été obligées quand même de restaurer une forme d'équilibre écologique.
Oui, il y a eu plusieurs recours, notamment au Conseil constitutionnel, même au Conseil d'État, par les associations locales, même des chasseurs locaux qui pourtant pourraient partager ces pratiques, ouais, mais qui voyaient ces méthodes déloyales et qui ont fait des recours. Il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises pour déjà restreindre un peu ces méthodes et certains privilèges accordés par les élus locaux.
Merci beaucoup Hugo Babet pour cette plongée dans les sous-bois
de la
Sologne. On se retrouve tout de suite pour nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Allez, Jean-Marc Daniel, votre dernière sélection pour aujourd'hui.
Alors c'est un petit texte par le volume, mais intéressant et de pas petit par le fond.
Ah oui,
ça s'appelle La conquête de l'Ouest.
Ah oui, je l'ai vu.
Oui, c'est de Jean-François Bonnour, qui est un historien, et donc la collection Librio chez Flammarion. Et c'est un livre qui commence par une série de dates sur comment effectivement les États-Unis se sont répandus vers l'Ouest. Donc on va depuis la bataille d'Alamo, qui a donné lieu à des films célèbres, notamment avec John Wayne, qui a conduit à l'annexion du Texas, puis ensuite la guerre avec le Mexique, puis ensuite les guerres indiennes. Tout ça se termine par, évidemment, la guerre de sécession. Donc à chaque fois, il y a un résumé des événements qui sont abordés. À la fin, il y a quelques portraits de personnages qui ont marqué cette période. C'est court, bien écrit et extrêmement intéressant.
Je me suis posé une question à laquelle vous avez peut-être la réponse. Est-ce qu'il existe une histoire économique de la conquête de l'Ouest ?
Sûrement,
oui, mais pas qu'on puisse aborder comme ça.
Je vais chercher.
Voilà,
je vais regarder ça. Ça m'intéresse. Christian Chavagneux, votre dernier choix.
Juste pour dire que j'avais lu les trois premiers volumes, ouais, qui étaient. J'ai pas reçu celui-ci, mais les trois premiers. Et vraiment très bien sur la Révolution française, sur la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, absolument. Non. Et donc,
moi, j'ai choisi un sujet plus traditionnel. Le titre, c'est 1929. On va me dire. Encore un livre sur la crise de 29. Oui, encore un livre sur la crise de 29. Ce qui a été publié doit pouvoir remplir tout studio et au-delà. Mais là, j'ai choisi de le mettre en avant. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit par Andrew Ross Sorkin, qui est à mon sens l'un des meilleurs journalistes économiques américains du moment. Et puis, derrière les mécanismes, il y a toujours des hommes. Et là, c'est la crise de 29 à hauteur d'homme. Une partie du bouquin est organisée sur le fil rouge un petit peu sur la bataille entre Charles Mitchell, qui était le patron de la Citibank, la plus grande banque du moment, et Carter Glass, le fameux sénateur démocrate du Glass-Steagall Act. Mais il y a plein d'autres personnages. Et si vous n'êtes jamais rentré dans l'histoire de la crise de 29, voilà, à hauteur de personnages, plein de personnages, on comprend ce qui s'est passé pendant la crise de 29 aux États-Unis.
Eh bien, merci Christian. Allez, moi j'ai été intéressé par cet opus qu'on a reçu. Pierre-André Buig, vous vous rappelez, c'était un haut fonctionnaire européen. Il a dirigé plusieurs services à la Commission européenne. Et c'est un économiste et qui publie ce livre, « La France à la loupe européenne, les préjugés à l'épreuve des faits ». C'est chez Duno. Et donc, il s'attache tout au long de son livre, finalement, à explorer plein de thématiques pour savoir finalement si tout ce qu'on dit de toutes les idées reçues qu'on a sur l'Europe, sur la place de la France en Europe, bien que faut-il en penser. Plein de paradoxes finalement dans ce livre passionnant. Vraiment Pierre-André Buig, donc c'est chez Duno, La France à la loupe européenne, les préjugés à l'épreuve des faits. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.